Frères et sœurs, comme vous êtes tous des experts de la liturgie dominicale, vous avez au moins remarqué aujourd'hui, dans ces textes, et surtout un évangile un peu particulier, qu'en ce dimanche, il est essentiellement question de fratrie, de fraternité, de famille et de vie éternelle. Puisque là, nous sommes au 32e dimanche du temps ordinaire, nous allons vers la fin de l'année liturgique et nous sommes invités à méditer sur ce que c'est le paradis pour nous, la vie éternelle, la vie après la mort, la vie avec les saints. Alors je vais essayer un petit peu de faire une méditation avec vous sur ces paroles d'aujourd'hui. La première lecture, par exemple, présente aujourd'hui sept frères, fraternité de sept frères. C'est un peu des héros du peuple d'Israël, qui par leur martyr, un peu plus d'un siècle avant Jésus-Christ, c'est intéressant de le savoir, et par la foi d'une maman, de leur maman, qui priait, ils ont su témoigner étonnamment de leur espérance en la résurrection des morts. Ils ont donné leur vie dans cette espérance-là. Ça ne devait pas être facile. L'évangile d'aujourd'hui parle aussi d'une histoire de sept frères. Vous avez bien remarqué. À la différence avec la première lecture, celle-ci se révèle à nous aujourd'hui comme une invention, enfin, probablement, plutôt invraisemblable, sûrement, racontée par des Sadducéens, qui sont des prêtres juifs de l'époque, qui, pour une seule raison, racontait cette histoire, ben, il voulait prouver à Jésus, que la résurrection n'existe pas. C'est quand même assez culotté. Croire que ces sept frères étaient fous amoureux de cette belle sœur. Bon, pas du tout. Alors, l'attitude de ces Sadducéens me fait plutôt, comment dire, penser à beaucoup de contemporains aujourd'hui, surtout aujourd'hui, qui, par d'innombrables raisons, voilà, c'est comme ça, avec nos soucis, nos difficultés, nos manques de foi, nos influences, cherchent, même dans nos familles, hein, je pense, à prouver à leurs proches, hein, avec des cogitations, là, qu'après la mort, ben, soit tout est fini. C'est arrivé il y a pas longtemps, après un enterrement, un monsieur qui m'a dit, au moment où on enterrait un monsieur, voilà, c'est le terminus. Vous y croyez, mon père. Soit, vous savez, il y a la réincarnation qui est très à la mode. Il y a plein de solutions, là, de façons de se réincarner. Ou alors, pour les plus parfaits, les élus, il y a une certaine façon de voir le paradis comme une sorte de multiplication de plaisirs humains et en de bonne compagnie, en préférence. Il y a beaucoup de choses à dire sur la manière de voir le paradis par nos contemporains, et peut-être aussi nous pouvons nous poser la question comment je vois le paradis. Et alors d'un côté, vous avez ce livre des martyrs, nous révèle une vie immensément féconde. Cette histoire me permet d'évoquer ici le témoignage de vie un peu plus proche dans notre histoire des sept frères, aussi sept frères moines. De Tibérine, un film magnifique à revoir ou à voir, hein, qui vous permettra de comprendre un peu ce lien entre vie éternelle, fécondité et fraternité. Le film s'appelle « Des hommes et des dieux ». De l'autre, l'Évangile déplore une situation quand même stérile et sans descendance. Il n'y a pas d'enfant, bonne question, c'est pas la gloire, hein. Or, j'imagine mal, je ne sais pas comment vous le voyez, vous, une photo de famille au ciel, avec au milieu une belle demoiselle charmante épouse, entourée de sept jeunes époux en smoking de luxe. Ça donne un genre, quand même, pour expliquer le bonheur. Je comprends que, bon. Alors, comment Jésus va-t-il réagir face à ces Sadducéens? C'est une manière de voir comment nous pouvons réagir. Avez-vous remarqué que Jésus renvoie toujours à la liberté de chacun? Vous voyez? Il remet tout simplement chacun qu'il le fait avec nous ce matin en face de sa liberté. Et ici, il nous provoque en ce matin sur la manière dont nous désirons que notre existence, qui a déjà commencé sur Terre, hein, que nos vies d'aujourd'hui, en tant que famille, en tant que prêtre et en tant que frère, soient vraiment fécondes jusqu'au-delà de la mort. Ouais, comment tu vas répondre à cette question et comment tu l'expérimentes? C'est Jésus qui va nous le poser, cette question, en ce matin. Et la parole de Dieu est archi-claire aussi ce matin, au moins sur certains points. C'est que les martyrs d'Israël, qui sont pour nous des témoins déjà, qui ont vécu avant Jésus-Christ, ben ils sont honorés par le peuple d'Israël aussi, par ailleurs, ni en raison du nombre de leurs enfants, même si c'est bien d'avoir des enfants, ni en raison du nombre de prestiges humains ou de discours que l'on peut faire sur la vie éternelle, par exemple. Ils le sont uniquement par le don de leur vie. Alors, ils sont martyrs, mais nous, on peut. Il y a une façon de donner sa vie, leur foi, au quotidien, jusqu'à donner leur vie à un Dieu vivant. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour lequel, vous voyez, ce Dieu-là, ben, pour ce Dieu-là, la mort humaine est ni une fin, ni une défaite. Pour lequel la mort est un passage, on le sait. Jésus nous rappelle une entrée dans une plénitude de vie. C'est vrai. Quelque chose de tout nouveau qui commencera au moment de notre mort. Dans une continuité, mais en même temps, du tout neuf. Une plénitude. Alors, en répondant aux Sadducéens, Jésus les met en face de l'évidence. Vous voyez, Jésus nous renvoie toujours à des évidences et ils se sont mis eux-mêmes devant leurs propres contradictions. Jésus les met devant cette évidence en leur disant que le Dieu qu'ils adorent, c'est comme des Juifs, eh bien, c'est bien le Dieu d'Abraham, c'est bien le Dieu d'Isaac, c'est bien le Dieu de Jacob. Donc, c'est un Dieu contemporain, compagnon de chacun des trois patriarche et de tout homme, et ceci de génération en génération. Dieu est un Dieu vivant qui est contemporain de chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, il va se révéler de façon particulière à Hippolyte et à Claire, à travers cette première communion. Un Dieu vivant, par Jésus. Donc nous sommes chrétiens, d'où les questions que nous pouvons nous poser, que je me pose à moi-même, qui est un regard de foi, savons-nous voir, comment regardons-nous, je ne sais pas comment dire, qu'ici, maintenant, au milieu de nous, à travers la Sainte Hostie, pourquoi pas à travers le pauvre prêtre que je suis, se tient le vivant, Dieu vivant, le ressuscité, qui nous a révélé cette vie éternelle, qui, par sa parole que nous avons entendue, nous rejoint dans nos histoires les plus compliquées, mais aussi les plus joyeuses, pour les éclairer, pour les illuminer, pour les accompagner, je ne sais pas comment dire, si nous le voulons. Qui, par le don de sa chair et de son sang, tout à l'heure, à la consécration, cherche à s'unir à nous pour nous changer un petit peu quand même, nous transfigurer. Qui, par le don de notre fraternité ce matin, d'où le sens de la messe dominicale, nous engendre davantage, ben je l'espère, pas en des messieurs en smoking, mais en des fils et des filles de Dieu, quelle que soit notre vocation. Henri de Lubac est un théologien français contemporain, aimait dire cette phrase qui peut nous aider, « La vie éternelle ». Voyez-vous, avant d'être une espérance pour l'avenir, c'est déjà pas mal, enfin je pense que vous l'avez, elle est avant tout une grâce, un cadeau, je dirais, c'est moi qui le dis, un cadeau et surtout une exigence pour le présent. Voyez, peu importe notre état de vie, bien sûr, c'est bien d'être là où Dieu nous a mis, mais à la Sainte Messe, c'est bien le lieu par excellence, et je fais le lien avec la première communion de nos enfants, là, de vos enfants. C'est bien le cadeau que Dieu nous fait chaque dimanche. où nous pouvons justement apprendre à célébrer, à développer ensemble, c'est un chemin, à nous réjouir de tous les fruits éternels que le Saint-Esprit nous donne. Vous voyez, des choses qui sont dans notre expérience de vie éternelle, déjà maintenant. Plus je grandis en bonté, plus je grandis en patience, et ça commence tout petit, hein, plus je continue à être un homme de paix et de joie, ben, ça ne peut que grandir. Et quand on sera au ciel, ça éclatera en une plénitude. Vous voyez, ça commence et c'est une joie. Vous voyez, et en même temps aussi, à la messe, ben, on n'est pas parfait. Donc, à la messe, Jésus est là pour aussi, pour nous purifier. Ouais, on peut tout lui donner pour qu'il nous pardonne, pour nous purifier, entre autres, de tous nos manquements, de tous nos discours souvent stériles, comme ces Sadducéens. Qu'est-ce qu'on parle bien, mais on vit rien. Souvent, on est un petit peu dans des pertes de temps. Et c'est comme ça, avec les médias d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on perd du temps à entendre des choses qui n'ont aucun sens, quelquefois. Et Jésus nous dit, reviens, donne-moi tout ça. Et n'imagine pas, et ne conceptualise pas trop les choses, surtout pas la vie après la mort. Et en même temps, en faisant le lien avec nos jeunes qui font ce week-end sur le regard, vous voyez, c'est aussi le lieu où on apprend à voir. Je sais pas comment la foi, c'est un apprentissage du regard. Dès ici-bas, on voit à travers les choses sensibles quelque chose qui est plus grand que ce qui est sensible. Je sais pas comment dire. Et on peut voir d'une certaine manière, même à travers une pauvre dame malade avec son chapelet, ou un enfant qui s'émerveille devant Jésus pour la première communion, la puissance de vie du ressuscité qui est plus fort que la mort quand même. Vous voyez, il y a un double regard à demander à Jésus, c'est celui de Jésus sur nous, rappelez-vous, il le ou il la regarda toujours et il l'aima. Toujours un regard d'amour absolu. C'est aussi Jean et nous sur Jésus. Il vit, vous voyez, la résurrection, et il crut. Il n'a rien vu en tant que tel, enfin bon, le tombeau vide, mais il a vu déjà la splendeur de Jésus ressuscité en chemin. Alors il me semble, frères et sœurs, que l'expérience de la vie éternelle dont nous pouvons prendre à cœur en ce dimanche, c'est bien une expérience de fécondité et de bonheur, et que nous pouvons déjà apprendre à vivre, et qui passe nécessairement, je ne sais pas comment dire ça, à travers la qualité de notre regard échangé. Et ça commence déjà entre nous, entre parents, entre enfants, entre papa et maman, entre frères. Que de regards plus ou moins fuyants, parce qu'on a peur, on ne croit pas assez, on ne voit que ce qui ne va pas et les déformations. Et voilà, et ça empêche en fait le Seigneur de se manifester dans sa plénitude déjà sur cette terre. Vous voyez, lorsque deux regards d'amour s'échangent entre amis, ben il y a toujours une sorte de révélation qui se manifeste, enfin, quelque chose de plus grand, parce que c'est partagé. Il y a un chemin à la fois visible, parce que ce sont deux regards visibles, et en même temps invisibles. Vous voyez, être regardé, enfin, ça fait exister quand même, non? Enfin, ça permet d'entrer en communion. Et c'est ce que Jésus fait avec nous, enfin, qu'il essaie de faire avec nous, à travers sa parole. Je termine, frères et sœurs. Voilà, c'est bien une grâce à demander aujourd'hui et à faire fructifier dans nos vies, où que nous soyons seuls, mariés, prêtres, frères, enfants, personnes âgées. Nous avons à apprendre à regarder et à se laisser regarder par Jésus. Il est toujours avec nous, le compagnon de notre route. Et le premier lieu, c'est les temps d'adoration. C'est important de prendre des temps d'adoration dans le silence. La méditation de la parole, c'est là où on apprend à regarder Jésus, ou à se laisser regarder. Ensuite, bien sûr, c'est lui qui nous apprend à regarder, à se laisser regarder entre nous. C'est un peu plus compliqué, c'est vrai. Aller au-delà des indifférences, au-delà des suspicions, pas facile, hein. Et entrer dans un regard que Jésus nous donne, des tout petits, qui sont des regards d'émerveillement à la suite de Marie. Ou un regard de tendresse, d'amour, assez fou, je ne sais pas comment dire, à la suite des saints, mais aussi celui du pardon. C'est important parce que Nous avons beaucoup de regards manqués chaque jour, donc il faut tout de suite revenir à la confession et dire à Jésus, je te donne tout ça pour que tu me délies de tout ce qui m'empêche de vivre cette espérance, pour qu'un jour au ciel, ça éclate en plénitude. Il y a un lien entre ce que je vis aujourd'hui et ce que je vivrai un jour au ciel. Voilà, je termine en priant que Marie porte du ciel, qui est au milieu de nous en ce matin, elle le fera toujours, mais que nous laissions intervenir dans notre vie, que nous puissions ouvrir notre regard, nos regards, nos yeux, comme dit un psaume, aux splendeurs de la parole, aux splendeurs de la vie. En attendant, bien sûr, son plein accomplissement le jour de notre mort terrestre, qui sera le moment le plus important de notre vie. Alors merci à Claire, là-bas Claire, merci à Hippolyte aussi. Merci à chacun d'entre vous, frères et sœurs, parce que, j'ose dire, vous êtes aujourd'hui pour moi, au moins un petit peu, de splendides clins d'œil de la vie éternelle.